France Culture.
Le journal, Olivier Vogel. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Le libre-échange tout de suite. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a annoncé ce matin l'entrée en vigueur provisoire de l'accord entre l'UE et les pays du Mercosur. Tollé en France, nous rejoindrons Fabien Cazot à Bruxelles en début de journal. Le piratage d'un logiciel de santé utilisé par des médecins, les données de 15 millions de patients ont fuité, des informations administratives mais aussi des commentaires rédigés par les praticiens. Au procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty, l'une des deux avocates générales a requis aujourd'hui des peines très lourdes à l'encontre des deux accusés poursuivis pour avoir déclenché une campagne de haine sur les réseaux sociaux qui avait abouti à l'assassinat du professeur. Nous retrouverons Florence Sturm à la cour d'assises spéciale de Paris. À Cuba, on en sait un peu plus sur le profil des passagers d'une vedette prise pour cible avant-hier par les gardes-côtes cubains. 4 passagers ont été tués, 6 autres blessés. Il s'agirait d'opposants au régime castriste venu de Californie. Vers la fin de la maladie du sommeil, celle qui est transmise par la fameuse mouche tsetse et qui est concentrée en Afrique de l'Ouest, l'Agence européenne du médicament vient de donner son feu vert à un nouveau traitement qui pourrait bien définitivement terrasser cette maladie tropicale. Et puis en fin de journal, portrait d'Odha Dondik, une jeune chef d'orchestre ukrainienne, à l'occasion du festival Maestra qui se tient jusqu'à demain à la Philharmonie de Paris. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur va entrer en vigueur de manière provisoire sans attendre l'avis de la Cour de justice de l'UE et contre l'avis de la France. C'est Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui l'a annoncé ce matin, provoquant un véritable tollé en France. Précision de Fabien Cazot, le correspondant de France Culture à Bruxelles.
En plein salon de l'agriculture, le camp français prend très mal la décision européenne d'appliquer provisoirement l'accord avec le Mercosur. Un déni de démocratie, s'insurge l'eurodéputée de droite Céline Imar, elle-même agricultrice. Elle avait voté il y a un mois pour le renvoi du texte devant la Cour de justice de l'Union européenne.
Ursula von der Leyen décide de passer complètement par-dessus le vote des parlementaires européens, qui sont tout de même les élus et les représentants du peuple, élus démocratiquement. Nous avons dit de manière très claire, on stoppe cet accord et on attend que la Cour de justice européenne se prononce sur la validité de cet accord.
Ailleurs en Europe, d'autres députés disent au contraire comprendre la décision d'Ursula von der Leyen. Par exemple, le luxembourgeois Charles Goerens, qui siège au sein du groupe centriste libéral Renew.
L'Union européenne est malmenée par ses grands partenaires commerciaux, notamment la Chine et les États-Unis, les uns protectionnismes et les autres le dumping. Alors, quoi de plus normal que de voir l'Europe vouloir élargir son espace économique? Et de ce point de vue, cette décision d'appliquer provisoirement l'accord me paraît acceptable.
Deux pays du Mercosur, l'Argentine et l'Uruguay, ont également confirmé hier leur volonté de ratifier l'accord.
Parmi les réactions en France, celle d'Emmanuel Macron qui déplore une mauvaise surprise, un déni de démocratie pour la FNSEA, autre syndicat agricole choqué par cette décision. La Confédération paysanne, son porte-parole, Stéphane Gallet, au micro de nos confrères de France Info.
C'est d'abord un scandale démocratique, hein, parce qu'on se souvient du vote du Parlement qui souhaite voir la Commission de justice européenne étudier en fait la faisabilité juridique de cet accord commercial. Donc c'est nier en fait la volonté du Parlement. Et puis c'est un scandale démocratique aussi par rapport à l'ensemble des paysans, des paysannes, des citoyens, des citoyennes qui ont exprimé leur opinion par rapport à cet accord de libre-échange. Et on refuse en fait que cet accord perturbe nos filières et fasse souffrir les paysans, les paysannes. Donc pour nous c'est une catastrophe. Et puis dans un contexte très particulier aussi où l'élevage souffre de crise sanitaire et on voit aussi arriver d'autres accords de libre-échange comme l'accord Australie. Donc c'est une vraie catastrophe pour le monde de l'élevage, pour le monde agricole dans son ensemble. La colère, elle est présente. Je vois pas comment on pourrait ne pas réagir. Encore une fois, c'est un vrai passage en force, inacceptable d'un point de vue démocratique.
Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, l'avait décidé. Le Conseil d'État vient de le confirmer cet après-midi. La France insoumise sera bien étiquetée à l'extrême gauche pour les municipales des 15 et 22 mars. Le Conseil d'État a par ailleurs confirmé que l'UDR d'Éric Ciotti était bien un parti d'extrême droite. À noter que le Rassemblement National n'a lui pas contesté son classement à l'extrême droite. 15 millions, c'est le nombre de patients dont les données ont été siphonnées à la suite d'une cyberattaque. Celle-ci a visé 1500 médecins utilisateurs d'un logiciel de CGDIM Santé. Le ministère de la Santé a confirmé ce matin la cyberattaque et indiqué que ces données qui ont fuité concernent des données administratives des patients, mais aussi des commentaires rédigés par leurs médecins. Anne Le Gall.
En France, selon le ministère de la Santé, 1500 médecins utilisent la version de ce logiciel de CGDIM piraté en fin d'année dernière et 15 millions de patients figurent dans la base de données attaquée. Le ministère précise par ailleurs que la fuite concerne essentiellement des données administratives telles que les noms, prénoms, numéros de téléphone ou adresse postale des patients, mais il n'y a pas eu de diffusion de dossiers médicaux, de résultats d'analyse ou d'ordonnances. Nos confrères de France 2 ont également fait état d'informations personnel présente sur le dark web, par exemple la mention de maladies graves, de tendances suicidaires ou d'addiction. Et si ce type d'information personnelle a pu fuiter, c'est uniquement dans les cas où le médecin a librement rajouté ses mentions dans la partie administrative du dossier, indique le ministère, qui précise aussi, sans donner plus de détails sur le profil des victimes, que 169 000 patients sont concernés par ces annotations plus personnelles. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour atteinte à un système automatisé de données.
C'est une peine très lourde qui vient d'être requise à l'encontre de deux des accusés au procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty, le professeur d'histoire, décapité par un jeune islamiste tchétchène. C'était le 16 octobre 2020. Le meurtrier avait été abattu ensuite par la police. L'une des deux avocates générales a requis 20 ans de réclusion criminelle avec les deux tiers de sûreté à l'encontre de Brahim Chnina, le père de la collégienne à l'origine du mensonge sur le coup de Samuel Paty, et la même peine contre Abdelhakim Sefrioui, le prédicateur islamiste. Tous les deux poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes pour avoir déclenché une campagne de haine sur les réseaux sociaux. Lors du procès en première instance, ils avaient été reconnus coupables et condamnés à 13 et 15 ans de réclusion. Florence Turm a suivi ces réquisitions à la Cour d'assises spéciale de Paris.
Elle était déjà là dans la cour de récréation, commence l'avocate générale. Elle s'est immiscée dans la salle des professeurs, s'est emparée de Samuel Paty. La terreur était là, à Saint-Elle, avant même l'entrée en scène du terroriste Anzorov, et c'est cette phase-là que vous avez à juger. Voix offensive, propos acérés, le poing droit serré, elle va reprendre le fil des derniers jours qui ont précédé l'assassinat de Samuel Paty. Ces actes positifs commis par le père de la jeune élève et le prédicateur islamiste qui le rejoint devant le collège. Ils ont fabriqué, diffusé un mensonge. Alors certes, il n'y a pas de preuve de rencontre entre Sefrioui et l'assassin, mais une communauté d'analyse et de pensée la même qui existe à ses yeux entre les deux accusés. On leur reproche, poursuit-elle, d'avoir créé les conditions d'un passage à l'acte terroriste, une véritable cabale en ligne avec désignation de la cible, adresse du collège, matraquage médiatique vidéo, avec des termes qui vont crescendo, malade, voyou. Durant 10 jours, ils ont créé un climat de peur et d'intimidation au sein de l'école. Elle le dit, le répète, jamais un dossier terroriste n'a concentré autant d'enjeux sociétaux. La justice ne peut pas être défaillante, conclut-elle. Les réquisitions tombent sans explication complémentaire, identique pour les deux hommes. 20 ans de réclusion criminelle. Leurs proches quittent la salle d'audience en pleurs.
Et puis, sur le banc des accusés, il y a également deux jeunes hommes poursuivis pour complicité, deux anciens amis de l'assassin qui s'attendaient à des réquisitions encore plus lourdes pour eux, ce qui n'a pas été le cas, Florence.
Dans le box, durant la suspension d'audience, Azim Epsirkanov a pris Naïm Boudaoud par les épaules. Ils se sont toujours démarqués de l'horreur de la décapitation, reconnaît la seconde avocate générale. Ils n'ont pas commis l'acte, mais activement et directement contribué à sa réalisation. Ils connaissaient la violence, l'engagement d'Anzorov. Ils lui ont apporté un soutien logistique. Le réquisitoire touche à sa fin. La violence s'est exercée sur ce que notre société a de plus précieux, lance encore l'avocate générale, la vie et l'éducation. Vous devez rappeler la valeur de la vie, protéger l'éducation. 20 ans requis par sa collègue contre les deux autres accusés, ce sont eux qui sont à l'origine du mal qui a frappé la société tout entière. pour les deux amis de l'assassin, ses complices aux yeux du parquet. Elles demandent 16 ans de réclusion, la peine à laquelle ils ont déjà été condamnés.
Florence Turm, les plaidoiries de la défense viennent de débuter. Elles vont se poursuivre jusqu'à demain soir. Le verdict est lui attendu lundi. Alors que les pourparlers indirects entre l'Iran et les États-Unis se poursuivent à Genève, le spectre d'une intervention américaine contre la République islamique se fait de plus en plus présent. Aujourd'hui, le Royaume-Uni a décidé de retirer son personnel diplomatique d'Iran. La Chine a appelé ses ressortissants à quitter le pays dès que possible. De son côté, Washington a appelé son personnel non essentiel à quitter son ambassade en Israël. Deux jours après l'échange de tirs meurtriers entre des gardes-côtes cubains et les passagers d'un bateau immatriculé en Floride, on en sait un peu plus. La tension déjà vive entre les deux pays est encore montée d'un cran cet après-midi. 4 passagers avaient été tués, 6 autres blessés dans ce bateau volé qui se trouvait dans les eaux territoriales cubaines. Selon les autorités cubaines, des coups de feu ont été tirés depuis cette vedette contre les gardes-côtes cubains qui auraient répliqué. Quant aux motivations des passagers, Élie Duclos, elles seraient politiques.
Il voulait aller combattre une narco-tyrannie criminelle et meurtrière pour la liberté de Cuba et provoquer sur l'île un soulèvement du peuple. C'est ce que déclare un de ses partisans, membre comme lui du Parti républicain de Cuba, une organisation politique d'opposants au pouvoir. Michel Ortega Casanova, ce chauffeur routier de 54 ans installé en Floride, faisait aussi partie d'un groupe qui s'entraîne militairement pour la liberté de leur patrie. Ce serait donc une attaque amateur, sans lien avec les autorités américaines, ce que précise d'ailleurs le secrétaire d'État Marco Rubio. D'après la version officielle, il s'agit d'une tentative d'infiltration à des fins terroristes d'un groupe armé de ressortissants cubains installés aux États-Unis. Selon La Havane, dont il est difficile de vérifier la version des faits, les hommes à bord du bateau volé la veille en Floride étaient lourdement armés. Des fusils d'assaut, armes de poing, engins explosifs artisanaux et gilets pare-balles ont été retrouvés à bord. Les États-Unis annoncent, eux, mener leur propre enquête, mais des experts cités par le New York Times estiment plausible qu'il s'agisse d'un coup monté, car le gouvernement cubain aurait été informé à l'avance de cet événement. Dans la liste des noms des blessés fournis par La Havane figure celui d'un militant anticommuniste qui était chez lui à Miami au moment de l'attaque.
Élie Ducourt, rédaction internationale de Radio France. C'est un nouveau géant qui vient de naître à Hollywood dans un coup de théâtre de dernière minute après des mois de négociations. Netflix, qui s'apprêtait à acheter le studio de la Warner pour 83 milliards de dollars, a été coiffé sur le poteau par David Ellison et la Paramount avec une offre à 111 milliards de dollars. Au-delà de la surenchère, les interventions répétées de Donald Trump pour dissuader Netflix d'acheter le studio ont porté leurs fruits. Netflix se retire et laisse une famille très proche de Donald Trump remporter la mise. À l'intérieur de ce nouveau conglomérat hollywoodien se cache également la chaîne d'information CNN, aujourd'hui très critique envers le président américain et qui va donc passer sous la tutelle du groupe Paramount et de la famille Ellison. La correspondance aux États-Unis de Laurent Kramer.
Oui, avec l'aide de milliards de dollars de son père, David Ellison est au départ un producteur d'Hollywood et notamment de la saga Mission Impossible. Son père, Larry, lui a bâti un empire dans l'informatique avec l'entreprise Oracle créée en 1977 et une fortune personnelle évaluée aujourd'hui à 400 milliards de dollars. Réputé pour sa main de fer, son agressivité commerciale qui lui a permis de bâtir cet empire, Larry Ellison est l'un des alliés les plus proches et les plus influents de Donald Trump. Le multimilliardaire a mis 40 milliards de dollars en cash sur la table pour permettre à son fils David d'engloutir un des plus grands studios hollywoodiens et au passage la chaîne d'information CNN. David Ellison, autrefois donateur de la campagne de Joe Biden, est aujourd'hui, comme son père, invité régulièrement à la Maison Blanche. Ce sont des amis, a déclaré le président américain, qui n'a jamais caché au passage sa volonté de voir la chaîne CNN changer de propriétaire pour mettre fin aux critiques envers lui-même et son administration. Un vent de panique souffle désormais à CNN, proche du camp démocrate. En achetant le studio Warner Bros. Discovery, la famille Ellison est sur le point de mettre la main sur l'une des plus influentes chaînes d'information.
Laurent Kramer, correspondant de France Culture aux États-Unis. Vers un enterrement dans quelques années de la maladie du sommeil, c'est l'espoir avec le feu vert donné par l'Agence européenne du médicament à un nouveau traitement. Il permet en une seule prise de guérir de cette maladie tropicale causée par la piqûre de la mouche tsetse. La maladie du sommeil est concentrée en Afrique de l'Ouest, particulièrement en RDC, la République démocratique du Congo, une pathologie longtemps négligée qui frappait plus de 300 000 personnes au tournant des années 2000 et que les progrès des traitements ont fait tomber à 600 cas l'an dernier. Les explications de Tara Schlegel.
Oui, mais des malades qui meurent si le parasite atteint leur système nerveux sans qu'on les soigne. Grâce à l'acosiborole, qui vient donc de recevoir l'avis positif de l'Agence européenne, le traitement se prend en une fois, par la bouche, pour guérir. Et la distribution est donc très facilitée, explique Dr Hélène, jointe sur le terrain en RDC où elle travaille pour DNDI, l'organisation non lucrative qui a géré les essais cliniques menant à l'approbation européenne.
Avec cette molécule, ça va nous faciliter d'entrer même dans des zones où l'accessibilité est très difficile par route. Hein, parce qu'avant, avec les necks, c'était des cartons qui pesaient des tonnes. On ne pouvait pas les transporter avec la main ou quoi. Mais avec les comprimés, comme ça ne pèse pas, on peut y aller même à moto.
Longtemps, on a rejeté les malades au lieu de les soigner alors qu'ils restent contagieux s'ils ne sont pas traités. Pour mesurer l'immense progrès thérapeutique que constitue la l'acosiborole, rappelons que dans les années 1960, on soignait avec un dérivé de l'arsenic mortel une fois sur cinq. Depuis 20 ans, trois médicaments ont donc été développés, passant d'un traitement sous perfusion encore très contraignant au comprimé d'aujourd'hui. Le laboratoire Sanofi donne ce médicament à l'OMS et finance sa distribution. Ce qui est rassurant, explique Laurent Fraisse, responsable recherche et développement à DNDI.
Il est possible de développer des produits dans un contexte où on sait que les patients ne pourront pas les payer et où la recherche et le développement doit se faire sans qu'il y ait forcément un profit à faire à la fin. Ben, c'est une très bonne nouvelle. Ça montre que ce modèle est faisable.
Et l'ONG mène en ce moment des essais cliniques pour adapter l'acosi aux enfants de moins de 12 ans.
Tara Schlegel, spécialiste santé de France Culture. La Maestra, c'est un concours qui met en lumière les jeunes femmes chefs d'orchestre. La compétition se déroule toute cette semaine à la Philharmonie de Paris. La finale est prévue demain. Olha Dondik y a participé il y a 2 ans. Cette jeune Ukrainienne de 22 ans y avait été demi-finaliste et elle vient d'être nommée chef assistante à l'Orchestre de Paris. Louis-Valentin Lopez l'a rencontrée.
C'est dans sa loge, à la Philharmonie, qu'Olha Dondik nous accueille.
C'est ici que je me prépare pour les répétitions.
Chef assistant de l'Orchestre de Paris, depuis le 1er janvier, la jeune femme a tenté le concours de la Maestra, il y a 2 ans.
Pour moi, la Maestra, c'était un challenge. Je ne m'attendais pas à réussir, mais j'ai été si heureuse quand j'ai été prise. Durant la compétition, j'ai fait des rencontres incroyables, des chefs, des musiciens et musiciennes.
Des rencontres comme la chef Claire Gibault, fondatrice du concours.
On sent qu'elle baigne dans la musique depuis l'enfance, qu'elle est bien entourée.
Vous lui prédisez un bel avenir.
Oui, j'en suis sûre parce qu'elle a beaucoup de qualités pour elle, non seulement musicale, mais humaine, et puis c'est une belle personne.
La Maestra, un tremplin pour la jeune femme dans un milieu encore très largement dominé par les hommes.
This competition is a wonderful platform for many young female conductors to be
seen. Cette compétition est une merveilleuse plateforme qui permet de mettre en lumière beaucoup de jeunes femmes chefs d'orchestre. Mais selon moi, nous devrions arriver à un point où un tel concours ne devrait plus avoir besoin d'exister, où la question de qui dirige n'importerait plus. Mais pour ça, nous avons besoin d'espace pour développer notre identité artistique.
Née en Ukraine, Olha Dondik est inspirée par les compositeurs de son pays.
Je suis profondément liée à mon pays et cette connexion m'influence en tant qu'artiste. En 2024, j'ai eu l'honneur de diriger un concert pour l'Ukraine avec l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam. Pour moi, en tant que jeune chef, il était très important de faire entendre ma voix, mon identité ukrainienne. Ce soir-là, tout le monde jouait avec son cœur.
Olha a déjà dirigé l'Orchestre de Paris lors de concerts pour les familles, les écoles. Elle partagera aussi la direction musicale de l'Académie d'été de l'orchestre.
Et c'est avec cette symphonie numéro 1 du compositeur ukrainien Boris Liatoshinsky que nous terminons ce journal, non sans avoir parlé météo, avec au menu des pluies éparses demain matin de l'Aquitaine au nord-est et de la Bretagne au Hauts-de-France. Quelques passages nuageux perturberont le sud-est. Quant aux températures, elles sont en baisse après ces quelques jours de douceur, de 9 à 14 degrés en général pour les maximales, de 14 à 18 dans le sud-est. C'est la fin de ce journal. Alison Vicrobeck était à la réalisation, Olivier Arnay à la technique.